Et il y a aussi une autre rencontre qui n'est pas évidente comme ça quand on y pense, même si on sait que François Morel a, je crois, déjà écrit un album, chanté un album, une chanson sur Étretat, me semble-t-il, me revient à l'esprit. Et c'est également une belle rencontre, ça, j'imagine.
Bah, c'est une rencontre que j'ai, je pense, initiée parce que Morel était venu me voir dans les coulisses d'une émission de télé qu'on faisait ensemble avec Drucker, et puis il m'avait dit qu'il était content de me voir là, donc ce qui voulait dire qu'il aimait bien ce que je faisais, hein, c'était en 2006, donc j'en ai parlé évidemment à Mathieu, et ça s'est passé d'une drôle de façon. Mathieu a rêvé, hein, il a vraiment rêvé qu'il était au cinéma et que derrière lui, au rang derrière, il y avait François Morel, qui ne savait pas comment faire pour se tourner et pour lui proposer de chanter en duo sur l'album. Et le lendemain, suite au rêve, il a envoyé un email à la manageuse de François Morel, et comble du comble, il se trouve que la manageuse, le premier concert qu'elle avait vu quand elle avait 13 ans, c'était un concert de moi. Et qu'elle, ça l'avait marqué, qu'elle était toujours aussi fan, quoi, des années plus tard. Et évidemment, elle a dit, mais oui, bien sûr qu'il va le faire, mais non seulement il va le faire, mais en plus, je vais venir à la séance pour être là et pour partager ce moment d'émotion. Donc, pour moi, avoir François Morel, qui est quand même un acteur culte, et puis qu'on n'attend pas, je trouve ça magique. Surtout que c'est sur une chanson dont je n'ai fait que la musique, puisque le texte a été fait par ma fiancée, et que c'est une chanson magnifique qui lui va comme un gant. De l'autre côté de la lune, ça lui va, mais à François Morel, parfaitement, quoi.
Vous parliez de Michel Curiau pour les arrangements et l'enregistrement de l'album, la production et l'initiative de cet album d'un Mathieu. Alors parlez-nous de ce Mathieu dont vous parlez depuis tout à
Mathieu
l'heure.
Johann, c'était pour les gens qui ont suivi la Starac, il est arrivé en demi-finale de la Starac 3 ou 4. C'était à l'époque où il y avait Grégory qui a gagné. Et Mathieu était dans cette équipe-là. Et avant qu'il parte à la Starac, pendant 6 mois, c'était mon manager. Donc on était très proches, hein. Il avait initié l'enregistrement d'un coffret qui était sorti en 2005, sur lequel il y avait Ne me parlez pas de couleur, qui s'appelait Toujours une route. Et puis c'est lui qui m'a trouvé mon premier contrat d'édition aux éditions de l'Archipel pour mon deuxième roman, etc. Donc on était très proches. Et cette idée d'album de duo, il l'avait encore une fois dans la tête depuis longtemps. En plus, on est voisins, il habite à 60 km de chez moi, donc on se croisait beaucoup, il surveillait ce que je faisais du coin de l'œil. Et puis voilà, il avait dans la tête cette espèce de truc inflexible. Je pouvais dire non, de toute façon, il savait qu'un jour j'allais finir par dire oui, parce qu'il était persuadé dans son fort intérieur que c'était la seule et belle façon de faire découvrir ou redécouvrir une écriture à certaines personnes qui pensaient que, bon, ben, mon existence était vouée à, encore une fois, la répétition jusqu'à la nausée des 4 fameuses chansons, dont je suis très fier d'ailleurs, mais qui ne peuvent pas résumer mon écriture sur presque 35 ou 40 ans, quoi.
Et vous vous êtes rendu compte, lors de cet enregistrement et avec ces rencontres, que ces chansons sont quand même faites sur mesure pour vous.
Ben, elles sont faites sur mesure pour moi, c'est-à-dire que tout... il y a beaucoup de gens. Carmen Maria Vega me l'a dit, Lama me l'a dit, Benabar me l'a dit, beaucoup de gens m'ont dit, finalement, tu te rends pas compte, mais t'écris des trucs qui te vont à toi, mais qui sont très très compliqués à chanter pour les autres. Et c'est vrai que je me rends pas compte. Je m'écris des choses sans penser une seconde à ce que ça deviendra si c'est pas moi qui le chante. C'est sûr que quand j'écris Mon père, ou quand j'écris Je pars, ou quand j'écris des chansons que je vais chanter moi et que je vais enregistrer moi, pas une seconde l'idée m'effleure que un tel va parfois ou peut-être avoir du mal à rentrer dedans, mais pas au niveau de l'émotion, mais au niveau de la découpe, au niveau des notes que je mets un peu biscornues. Carmen, elle avait un mal de chien à chanter au café de fleurs, il y avait déjà des folles, parce que le truc est en haut, alors donc c'est pas logique. Donc c'est des trucs que je m'écris tout seul pour moi, mais je me rends compte que finalement c'est du sur-mesure pour moi, mais pas forcément pour des duos.
Et Serge Lama, justement, ne voulait pas tomber sur Et mon père, mais il est tombé sur Je pars. Et alors là, c'est
ça
génial.
Ça a été la réflexion qu'il a fait pendant l'enregistrement. Ouais, on a des images vidéo de lui me disant ah là là, quand on m'a demandé de participer à l'album, évidemment il était ravi parce que c'était pour moi la boucle était bouclée. C'est Serge qui m'a tendu la première main après le Normand en fait. Le Normand m'avait invité à l'Olympia en 75 et Serge m'a invité dans ses deux tournées de 76. Et ben il était ravi, il a accepté tout de suite, mais il avait qu'une peur, c'est qu'on lui dise tu vas chanter et mon père en duo avec Nicolas. Voilà. Et encore une fois, il m'a fait la même réflexion. Il me dit j'adore mon père, mais pour moi, c'est inchantable. Je ne suis pas capable de la phraser comme tu le fais. Donc, merci, je pars. Et c'est vrai que quand on écoute le résultat, l'arrangement de Curio et la façon dont ça nous emmène du côté de l'Argentine avec ce bandoneon qui traîne, et puis cette énergie, et puis la voix de Serge, je redécouvre Je pars. C'est encore une autre chanson. Alors, la vraie réussite aussi de ce disque, et encore une fois, j'en parle puisque j'ai rien fait, à part chanter et écrire, la vraie réussite de Curio, c'est d'avoir réussi à prendre à contre-pied les fameuses chansons connues. C'est-à-dire, Je pars, c'est très très connu. Ça passe toute la journée à la radio dans la version de 77. Et là, c'est une version qui est... pour moi, aussi forte que celle de 77, en apportant des choses un petit peu différentes qui permettent de redécouvrir une autre facette de cette chanson. Et pareil pour les autres chansons connues. Quoi.
Bah, si on prend So Far Away, par exemple,
ah bah alors là, il fallait
vous parlez
oser.
Du picking ah bah dans là, le livre
il fallait
régulièrement.
Oser, ouais, il fallait oser, parce que quand il m'a posé la question Curio, est-ce qu'on vire le picking ou pas, ma première réaction, ça a été de dire, on peut quand même pas virer le picking. Quoi. C'est,
alors pour nos auditeurs, le picking, ouais, c'est le truc l'intro à la guitare, qui est remplacé par des nappes et du picking.
Voilà. Et mais en même temps, Mathieu a tranché. Il a dit, mais attendez, si c'est pour remettre le picking, autant acheter une compilation. Parce que si c'est pour refaire la même version que ce qui existe déjà en original ou dans des compiles depuis 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Et il a raison. L'intérêt de faire un album comme ça, c'est justement de faire en sorte que ça soit tout à fait différencié. C'est là aussi que c'est différent. Où c'est différent par rapport à certains albums de duo qui ont déjà été réalisés par certains. C'est-à-dire qu'ils ont toujours essayé de respecter les arrangements originaux. Nous, on a tout fait pour justement ne pas respecter les arrangements originaux, parce que sinon, c'est faire de la ressucée, ça n'a aucun intérêt. Et donc, pour en revenir à So Far Away, virer le picking, là, je dois dire qu'il fallait y aller. Il fallait y aller, mais je trouve que c'est formidablement réussi. Après, on aime ou on n'aime pas, mais passer la surprise de la première écoute, peut-être, il faut bien se rendre compte que c'est devenu une chanson extrêmement élégante, entre une atmosphère un peu à la Ray Charles, comme ça, très jazzy, tout en restant dans le côté chanson. Et puis, il y a les réminiscences de la première version. Et puis, évidemment, il y a la voix de Sophia qui amène une Sophia douceur Issaidi, supplémentaire. Ouais. Voilà, Sophia Issaidi qui amène une douceur et une tendresse supplémentaire.
Alors, maintenant, vous parliez de Serge Lama. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tout ce qu'il vous a apporté, parce que votre amitié date de plus des années 70-76. Hein, voilà. Et c'est grâce à lui que vous avez commencé à sillonner les routes. Quoi.
Ah bah, la première tournée que j'ai, enfin les premiers concerts que j'ai fait, d'abord en remplacement de Jean-Michel Karadec en juin et en août 75, bah, c'est avec Serge, d'abord à Clermont-Ferrand et puis ensuite à Vauvert hein, dans le sud de la France. Et puis ensuite, Eddy Marouani, qui était notre impresario et surtout l'impresario de Serge et qui m'a engagé dans son écurie, m'a fait partir avec lui pour toute l'année 76. C'est-à-dire que de février 76 jusqu'à septembre 76, avec 2 mois d'interruption peut-être, on était sur la route en permanence. Et comme Serge, à l'époque, était avec Sardou les deux plus gros vendeurs de disques en France, avec Serge, c'était blindé de monde partout, quoi. Donc j'ai appris, c'est vrai, mon métier, enfin, je ne considère pas que ce soit un métier, je trouve que c'est plutôt un privilège, quoi, que de faire ce que je fais, mais j'ai appris plein de choses avec Serge en le regardant tous les jours. C'est-à-dire que j'étais toujours sur le côté de la scène, à regarder, à l'écouter. C'est pas pour ça que je suis devenu génial du jour au lendemain, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut y aller, quoi. Il faut être sur scène pour se rendre compte que c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que moi, je suis devenu moi le jour où je me suis retrouvé tout seul sur scène, sans musicien, juste avec une guitare, éventuellement des bandes, orchestre, et que j'ai fait quasiment le tour du monde comme ça. J'ai senti dans les centres culturels français un peu partout dans le monde. Avant, en France, j'avais fait une flopée de discothèques où il fallait que je fasse asseoir les gens, même bourrés, à 2h du matin, etc. Et je peux vous dire que ça calme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sort des deux tournées avec Lama, on est au paradis, hein. C'est-à-dire qu'il y a 300 000 personnes sur 5 mois, on se dit « waouh, formidable ». Quand on se retrouve tout seul et qu'on se rend compte qu'on attire un peu moins de monde, c'est le moins qu'on puisse dire, ou qu'on ne nous donne pas les mêmes moyens qu'on avait dans la tournée de Serge, bah, il faut apprendre sur le tas. Je pense que si je prends du plaisir sur scène aujourd'hui, et Dieu sait si j'en prends, je le prends grâce à toutes ces années d'apprentissage qui ont commencé avec les deux tournées avec Serge.
Et vous parliez du temps que vous avez mis pour commencer à être à l'aise, mais on a l'impression que le temps pour vous c'est important. Déjà au départ, d'ailleurs vous le dites dans la chanson Et mon père, hein, ça prenait des mois, parfois des années, etc. Alors le début a été assez difficile, hein, premier 45 tours, bon, ça marche
flop,
pas, le
deuxième 45 tours, flop, voilà. Bis.
Et puis un jour, c'est quand même dingue, hein, deux 45 tours qui ne marchent pas, et on dit bon, bah, et si on faisait un album ?
Oui, mais ça, il faut rendre hommage à Philippe Constantin. Philippe Constantin, c'était l'éditeur de ma maison de disques. C'était un visionnaire, je le dis dans le bouquin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le prix Philippe Constantin pour les révélations de l'année, etc. Mais il faut savoir qui était Philippe Constantin. Philippe Constantin, c'est au départ un éditeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est supposé mettre en relation un auteur et un compositeur pour qu'ils écrivent ensemble des chansons, pour que l'éditeur propose ses chansons à des interprètes qui n'écrivent pas de chansons. Donc, c'est le premier boulot d'un éditeur, c'est ça. Et Constantin, son talent, c'était d'être capable de repérer dans les gens qui défilaient dans son bureau ou dont il écoutait les bandes, des talents éventuels. C'est comme ça qu'il a produit Gérard Manset, c'est comme ça qu'il a découvert Téléphone, c'est comme ça qu'il a été le responsable du nouveau Pink Floyd. C'est lui qui a été là pour dire à Pathé Marconi, ma maison de disques à l'époque, qui voulait me rendre mon contrat après les deux flops dont on vient de parler. Non, il ne faut pas faire les 45 tours, il faut faire un album. Et pour ça, il a appelé un autre grand directeur artistique qui s'appelait Claude Dejacques. Et c'est Claude et Philippe qui ont décidé de faire appel à un arrangeur génial à l'époque, Jean Musy, et avec très peu d'argent, parce qu'il y avait 80 000 francs de l'époque pour faire un album, donc c'est quand même très peu d'argent. On a fait cet album qui s'appelait D'où venez-vous, et sur lequel il y avait So Far Away From LA. Donc ça a été une espèce de rencontre d'énergie positive, et ça nous a amené à ça.